Radioscoop.com.
Alors, chercher quoi? Ben, je me pose sans arrêt la question.
Nous sommes tous des chercheurs. Cherchons tous quelque chose.
Les têtes chercheuses.
Un chercheur, c'est d'abord quelqu'un qui fait, à mon avis, un métier qui lui plaît.
Alors, je ne sais pas très bien ce que je vais trouver quand je cherche. Je prends très au sérieux ce terme.
Les têtes chercheuses sur RFI.
Un jour, j'ai rencontré un logicien qui s'appelait Grayson, qui avait un gros accent allemand. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il m'a dit, je suis chercheur. Et c'est quoi être chercheur? Et bien, voilà, je suis à Princeton. Je me promène à travers le monde et je saute les petites étudiantes. Et de temps en temps, je fais un théorème pour pas qu'on m'emmerde. Nom de Dieu, il est libre, ce type, c'est incroyable. Et cette histoire s'est confirmée quand je m'occupais de safari au Kenya. Un jour, j'étais face à un grand arbre dans lequel il y avait plein de singes. Et les singes mâles se battent entre eux pour avoir la possession des meilleures branches. Et il y avait un tout petit singe qui était au bout d'une branche très fine. Et les mâles n'osaient pas s'approcher parce que quand ils s'approchaient, la branche risquait de casser. Et je me suis dit, il faut que tu te trouves une branche tellement haute qu'on te foute la paix. Et c'est vrai que pendant 20-30 ans au CNRS, quand les gens m'embêtaient, je disais, avant de commencer à m'embêter, est-ce que vous comprenez vraiment ce que je fais?
Les têtes chercheuses sur RFI. Michel Diaz.
Un homme d'expérience, c'est ainsi que l'on pourrait parler de Jean-Pierre Petit, artiste, scientifique, écrivain, bricoleur. Un homme qui se questionne et qui interpelle le monde scientifique. C'est au milieu des années 70 qu'il s'intéresse aux extraterrestres et commence à étudier ces phénomènes paranormaux. Dénigré ouvertement par la communauté scientifique, Jean-Pierre Petit continue à faire ce qu'il a toujours voulu faire, comprendre. Aujourd'hui, il ne cesse d'entreprendre des projets plein la tête, dans les étoiles, pas tout à fait, les pieds sur terre plutôt, et en colère de ne pouvoir agir, de ne pas réussir à se faire entendre. On est devant une maquette, là, vous vouliez m'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai bien envie de vous poser la question pour vous me racontiez cette histoire.
Ben, c'est une maquette de DC-3, qui est un bimoteur de la Seconde Guerre mondiale, qui servait pour le parachutisme en Normandie. Et je l'ai acheté parce que c'est joli, et parce que j'ai piloté ça quand j'avais 13 ans.
13 ans, ça fait quand même un peu jeune.
Ben, disons qu'il y avait un pilote qui faisait des baptêmes de l'air. Il avait un petit avion bleu quadriplace qui s'appelait un Orécrin. Et moi, j'étais là avec ma bicyclette et je mourais d'envie de monter dedans. Et je savais pas comment m'y prendre. Alors je lui ai dit que sa publicité était très mal faite, que je pourrais lui faire un prospectus qu'on ferait imprimer et que si j'allais le distribuer avec ma bicyclette dans les hôtels, ça lui ferait des clients. Alors il a baissé la tête parce que j'avais grandi assez tard, j'étais tout petit, puis il a regardé qu'est-ce qu'il disait, tout ça, il me dit mais qu'est-ce qui pourrait faire le dessin? Ben, je dis moi, et il faut trouver un imprimeur, puis j'ai trouvé. Alors on a fait ça, alors j'ai distribué les prospectus et puis comme ça a marché. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu me demandes en échange? Je dis apprenez-moi à piloter. Alors c'est vrai qu'à 13 ans j'ai appris à piloter. Alors après quand j'étais au salon de l'aviation, on avait droit à un baptême de l'air sur DC-3, j'ai dit à l'hôtesse que je savais piloter. Alors elle m'a amené dans la cabine. Et elle a dit au pilote, je vous amène un petit monsieur qui s'est piloté. Alors, c'était en 58 ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, à ce moment-là, le copilote s'est levé en disant, je lui laisse ma place. Et à ce moment-là, ils ont vu que je savais piloter convenablement cet avion. Pour que j'ai gardé, voilà.
Cette histoire, en fait, elle correspond un petit peu à ce qui vous a amené à ce que vous avez fait pendant toute votre vie, c'est-à-dire chercher, curieux. Quel qualificatif vous aimeriez qu'on vous attribue?
Ben, c'est ce que j'ai mis dans mon site internet. Hein. Soyez réaliste, envisagez l'impossible. Hein. Parce que vu le milieu social dont j'étais issu, piloter un bimoteur, c'était pas possible. Rien n'était possible. Alors qu'en fait, j'ai été guide de safari au Kenya, j'ai fait des tas de choses. Quoi. Je veux dire que je crois que les gens ne se rendent pas compte de quoi ils sont capables. Quoi. Vous vous sous-estimez énormément.
Alors justement, à l'âge de 13 ans, ou peut-être même avant, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu celui que vous êtes aujourd'hui et quelle définition vous donneriez?
Ben, c'est un métier où on peut être libre, c'est pas facile. Cette liberté, il faut la conquérir, et il faut beaucoup se battre. Le monde est distribué en deux populations, il y a les éléphants et les cornacs. Alors les éléphants, ils sont là avec leurs trompes et ils cherchent de quoi manger, ils se promènent et les cornacs leur montent dessus et puis ils les utilisent, celui-là un petit peu. Hein. Et dans la vie, on se fait cornaquer par ceci, par cela. Moi, j'ai viré tous mes cornacs. Quoi. Je veux dire que et j'ai trouvé que le monde de la recherche était le seul où je pouvais ne pas avoir de patron. Ce qui fait que pendant toute ma carrière, je me suis dirigé moi-même parce que je faisais des choses très compliquées. Et les patrons ne comprenaient pas ce que je faisais. Alors j'étais tranquille, voilà.
Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui pour vous?
Vous savez, un scientifique, souvent, ça va pas très loin. Ils sont censés être en pointe. En fait, ils sont souvent à l'arrière-garde. Ce qui fait que quand on manipule des outils un petit peu sophistiqués, ou qu'on a des idées un petit peu en avance, ils comprennent pas, simplement. Et en ce moment, c'est ce qui se passe pour moi, en cosmologie, en astrophysique. C'est au point où, si je parle dans un séminaire devant des astrophysiciens, ils comprennent pas ce que je raconte. C'est les mathématiciens qui comprennent.
Alors pour mieux comprendre et mieux vous cerner peut-être, est-ce que vous pourriez commencer par le début, ce que vous avez fait comme étude, qu'est-ce que vous aviez envie de faire?
Ben, moi j'ai fait l'école supérieure d'aéronautique, c'était assez commode, parce qu'il y a quand même 3 mois de vacances, hein. Il ne fallait pas énormément travailler, ça m'a permis de faire des choses extraordinaires, par exemple j'ai rencontré Henri Coranda, le Roumain, qui avait un laboratoire dans les sous-sols de l'école, et quand j'étais dans cette école, tout de suite j'ai inventé des choses, et grâce à la complicité d'un ingénieur qui travaillait à l'école, j'ai pu monter un laboratoire dans les sous-sols, et je me suis amusé comme un fou. J'ai rencontré Coranda, et Coranda était un vieux monsieur à l'époque, et Coranda avait présenté un avion en réaction au salon de 1909. C'est fantastique.
Vous vous souvenez de votre première découverte?
Bon, je crois que ça a commencé quand j'étais tout petit, quoi. Je peux pas vous dire. Par exemple, je sais pas, quand j'avais 10 ans, je sautais en parachute avec le parasol de ma tante, sur lequel j'avais mis des ficelles, et j'allais au plongeoir. J'ai fait de la plongée sous-marine avec un gonfleur de dinghy, quoi, etc. Bon, on fait avec ses moyens, quoi. Je trouve que, comment dire, vous savez, on fait vraiment bien les choses quand on s'amuse. Et en ce moment, on est en train de constituer une équipe de chercheurs. Alors, il y a deux populations. Il y a les 30 ans, hein, qui ont l'âge d'être mes enfants, quoi, et qui sont des gamins qui vraiment en veulent. Puis à côté de ça, j'ai retrouvé d'anciens collègues à moi qui ont plus de 70. Mon ami Georges en a 75. Ce qui fait que là, c'est Space Cowboy, vous voyez. En fait, je veux monter une expérience que l'armée a foutue en l'air il y a 20 ans. Et on va monter toutes ces histoires-là. Exactement comme vous avez vu peut-être le film de Clint Eastwood, là. Space Cowboy. C'est ça. Soit, il y a les plus de 70, quoi.
C'est quoi cette histoire?
Cette histoire, si vous voulez, ça me ramène à 1975, le début de mon intérêt pour le sujet OVNI. J'avais une soufflerie à onde de choc, hein, qui est une espèce de sarbacane qui envoie des gaz très chauds, très rapides. Puis, dans une expérience, je me suis aperçu qu'on pouvait fabriquer une onde de choc sans obstacle mobile, simplement avec des forces électromagnétiques. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est curieux, si on peut faire une onde de choc sans obstacle mobile, c'est peut-être qu'on peut supprimer une onde de choc sur un obstacle qui existe déjà. Et à ce moment-là, ça m'a fait mettre la main, le bras, tout, dans le sujet OVNI, parce que les OVNI se déplacent à vitesse supersonique sans faire l'onde de choc. Et puis, j'ai publié là-dessus, j'ai eu un type qui a fait une thèse de doctorat avec moi. Rendez-vous compte que cette idée n'est pas encore vraiment débattue. Hein. À une certaine époque, j'avais réussi à convaincre Papon, qui était directeur général du CNRS. Donc, le projet avait été d'utiliser une soufflerie supersonique qui existait, parce qu'entre-temps, j'étais devenu astrophysicien, j'avais fait beaucoup de choses, changé beaucoup de disciplines, etc. Donc, retrouver ce type de soufflerie, faire une expérience, et mettre en jeu les calculs qu'on avait fait avec mon étudiant de thèse, Lebrun, et faire disparaître son onde de choc. Donc, tout ça devait être fait. Et en 1986, l'armée a mis son veto. Je vous assure, on a des témoignages là-dessus. Ça a été non. Alors pourquoi? On peut se poser la question. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je crois qu'un engin qui se déplace à vitesse supersonique sans faire de banque, c'est un missile de croisière aux performances exceptionnelles. Peut-être qu'on n'a pas tellement envie de voir ces choses-là. J'ai une fan. C'est Michel Alliot-Marie. Ça fait plusieurs fois que ça m'est raconté. C'est vrai que je suis très connu dans ce milieu-là. Et ces gens-là se disent, ah, s'il avait voulu travailler avec nous, qu'est-ce merveilleux, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait des avions supersoniques, des trucs, des machins. Or, moi, fabriquer des armes, ça m'emmerde. C'est tout. C'est une question d'ennui profond, quoi. Bon. Et il y a des gens qui m'ont rejoint, Jérôme Frasson, par exemple, pour la spectroscopie, pour la biologie, Julien Geffray, qui sont ces gamins qui ont 30 ans, qui en volent, comme c'est pas croyable. Et Frasson, par exemple, a reconstitué les méthodes d'analyse de Bounias de traces d'OVNI, et il a fait ça dans un sous-sol, et quand je suis allé le voir pour voir comment il avait procédé, il fallait qu'il centrifuge ses éléments. Et je lui dis, mais avec quoi vous faites la centrifugation? Ben avec le sec salade de ma mère. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai donc lancé un appel dans mon site. Et il y a tout de suite un lecteur qui a dit combien ça coûte une centrifugeuse, on lui a acheté une centrifugeuse, combien ça coûte une balance, etc. Voilà.
Et alors, vous n'avez pas l'impression, justement, c'est que vous ramenez les choses à leur juste mesure, c'est-à-dire que les autres vous en veulent un petit peu de trop simplifier les sciences d'une façon globale?
Là, d'abord, peut-être que les gens m'ont voulu de trop bien les expliquer, parce que j'ai fait les bandes dessinées, les aventures dans celles d'Anturlu, et c'est vrai que c'est un peu comme en médecine, il est bon de garder un petit peu ses connaissances pour soi, et la science, j'explique un peu trop les choses, quoi. Bon, alors, ça plaît pas forcément. Et puis ensuite, alors là, pour cette histoire, comment vous dire, moi je fais un petit peu l'Indiana Jones de la physique, quoi. J'ai envie d'aller dans le temple maudit, quoi. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de percer les secrets. Et cette expérience-là, on va la faire. The scientist rubs his weary eyes and says, seriously, I just realized that I used to be employed doing things that I enjoyed, but nowadays I just do things. Je suis effaré devant la lâcheté des scientifiques. Ils ont une cosmotrouille, ils ont peur de la connaissance, ils ont peur d'aller plus loin. Dès qu'on sort du cadre d'une science conventionnelle, ils se mettent à frissonner. C'est terrible. Mais vous savez, il y a des choses du présent. En avril 2006, j'ai vu paraître un papier dans Physical Review, écrit par un type que j'ai bien connu, qui s'appelle Malcolm Hines, un anglais, sur des travaux qui ont été faits en Amérique sur la Z-machine. Et cette Z-machine, c'est un compresseur MHD. Ça ressemble à un énorme camembert de 30 mètres de diamètre. Et un montage particulier a fait que l'expérience a fonctionné d'une manière complètement imprévisible. Et on a réussi à obtenir un cordon de plasma où la température est montée à 3,7 milliards de degrés. C'est 400 fois la température au centre du soleil. C'est quelque chose d'extraordinaire. Or, avoir une telle température, ça ouvre sur des perspectives fantastiques qui s'appellent la fusion aneutronique. La fusion aneutronique, quand on prend des réactions de fusion, on imagine deutérium, tritium, etc. Bon, ça donne des neutrons. Les neutrons vont activer, créer de la radioactivité. Par contre, si on fait bore hydrogène, qui demande 1 milliard de degrés, ça ne donne que de l'hélium. Ça, c'est écrit dans mes bandes dessinées depuis 25 ans. Hein. Et tous les physiciens le savent. Il y a des réactions de fusion qui ne sont pas polluantes. Autrement dit, le nucléaire, quand on voit des gens qui disent non au nucléaire, j'ai envie de dire oui, dites non à ce nucléaire-là. Mais il y a un autre nucléaire qui peut donner des résultats extraordinaires. Et à ce moment-là, cette fusion non polluante, si on arrive à la mettre sur pied, alors évidemment, ITER, ça devient la machine à vapeur du troisième millénaire. Ça ne fonctionnera pas, ce truc-là. Genre, c'est très trop long d'expliquer pourquoi, mais ce sont des plans sociaux, c'est pas des véritables projets scientifiques. Hein. Bon, mais je veux dire que monter un système comme ça, il faudrait le faire à l'échelle française ou même européenne, c'est 200 fois moins cher qu'ITER. Rendez-vous compte qu'au centre d'une bombe à hydrogène, il y a 500 millions. Là, c'est 3,7 milliards. Donc, et j'entends, vous me demandiez tout à l'heure comment réagissait la presse scientifique. La Rousserie a fait un article dans Science et Avenir. Il n'a pas osé parler de ces fortes températures. Hein. Et il était voir un spécialiste qui lui a dit, oui, mais ces températures-là, il ne faut pas se laisser impressionner, c'est dans des petits points très instables. C'est complètement faux. Là, il y a une incompétence en marche. C'est incroyable.
Ça veut dire qu'en fait, pour finaliser l'idée, en l'occurrence, il y a des résultats qui sont très intéressants et en fait, on ne les utilise pas.
Non, on ne les utilise pas. Alors ça, le pire, c'est qu'on pourrait dire, mais est-ce qu'on a une Z-machine en France? La réponse est oui. À Gramma, dans le Lot, c'est un instrument militaire. Et on l'utilise pour faire une source de rayon X pour tester des ogives nucléaires. Et quelle a été la réaction en France? Faites-nous d'abord des bombes, après on fera de l'électricité. Or moi, quand j'ai vu De Piret, qui est l'adjoint de Valérie Pécresse au ministère, je lui ai dit, si on fait ça, on passe complètement à côté des choses. Il faut aller directement vers les applications civiles. Parce qu'il y a des applications militaires, évidemment. Et si on fait ça, on lâche la proie pour l'ombre. Il y a des choses qui peuvent servir actuellement. Je ne parle pas de navigation à voile, ça c'est de l'archéologie, un truc comme ça. Mais quelque chose de vraiment extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle les tours solaires. Vous avez un pays comme les Émirats Arabes Unis, il se trouve que je suis allé là-dedans. Hein. Bon, ce sont des gens, ils ont plein de fric, ils sont adossés au désert. Ils ont un énorme désert. Il faut savoir une chose, c'est que les déserts, ce sont des sources d'énergie de l'avenir. Et comment est-ce qu'on fait pour extraire l'énergie des déserts? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du soleil, il y a de la place. À ce moment-là, on construit une tour de 1000 mètres de haut. Maintenant, ce n'est pas de problème. À Dubaï, ils envisageaient même de construire, ils ont mis en construction un building de 800 mètres, avec des ascenseurs, des appartements, etc. Donc, construire une tour de 1000 mètres, ce n'est pas très compliqué. Cette tour de 1000 mètres, en bas, il y a une serre. Et cette serre, c'est simplement un truc pour capter l'énergie solaire. C'est tout. Donc, à ce moment-là, vous avez 70-80 degrés d'air chaud au ras du sol, ça monte dans cette espèce de truc-là, il y a des turbines, et avec ça on sort des mégawatts. C'est fantastique. Et alors, là où c'est encore plus extraordinaire, c'est que sous cette serre, qui va être un truc, mettons, de 10-20 mètres de hauteur, on met une pièce d'eau. Et cette pièce d'eau va monter à 80 degrés. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ça va vous servir de condensateur, et vous aurez de la chaleur la nuit. Donc elle va marcher la nuit et le jour, et elle marchera mieux la nuit, parce que l'air en altitude sera froid. Eh bien, vous savez, actuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est truffer les déserts de tours solaires. Et à ce moment-là, les pays en voie de développement seraient producteurs d'énergie. Mais ça, vous voyez, il y a des Allemands qui s'occupent de ça, il y a des projets de ce genre. On a même fait des expériences en Espagne avec des tours de 70 mètres qui ont sorti des kilowatts électriques. Ça, c'est vraiment une technologie d'aujourd'hui sans aucun problème.
Et pourquoi ça ne fonctionne pas?
Je suis allé aux Émirats en tant qu'expert des sous-marins. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, y compris des choses de genre. Donc j'ai été invité par un type qui étudie les sous-marins. Mais ce que j'ai vu sous mes yeux, j'étais effondré. Vous vous rendez compte, on a dépensé de l'argent pour construire une piste de ski. Ils investissent dans le luxe. Mais c'est vrai, de nos jours, vous construisez des petits bateaux de 8 mètres de long, mais il n'y a plus de clients, les gens n'ont pas d'argent. Faites des trucs de 50 mètres, vous aurez du monde, il y a des milliardaires. Il y a de plus en plus de milliardaires. Enfin, vous savez, les tours solaires, ils s'en foutent.
Watch out, 'cause I'm taking off in my spaceship. Well, farewell and lots of love in my spaceship. Yes, I've had enough to hear. It's best to simply disappear.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite, si on vous donnait les moyens de changer quelque chose?
D'abord, c'est pas si on me donne les moyens, c'est qu'on me donne les moyens et on va le faire. Vous savez, c'est comme, Yoda dans La Guerre des Étoiles. Il dit non, n'essaye pas, fais. Bon, bah, faire, ça va être les différentes démonstrations, les différentes expériences pour montrer que les ovnis existent, que ce sont des machines et que nous sommes visités par des ethnies extraterrestres. Ça amènera peut-être ces cons de terriens à lever le nez en l'air en disant on n'est peut-être pas tout seul dans l'univers. Regardez, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. On est visité depuis très longtemps. Ces gens ne viennent pas nous prendre nos trésors, notre pétrole. Ils pourraient certainement nous éradiquer d'un claquement de tentacules. Bon, simplement, ils nous observent. C'est bizarre. Il est possible que nos recherches ne les intéressent pas. Par exemple, tout à l'heure, je reviens assis sur cette machine. Dans cette machine, on a fait 3,7 milliards de degrés en 2006. Maintenant, 2 ans sont écoulés. Il y a déjà des machines plus puissantes. On doit pouvoir théoriquement monter à 1000 milliards de degrés. Si on arrive à une température de ce genre, on est à la température du cœur d'une supernova. On peut synthétiser des atomes. Donc autrement dit, si vous avez besoin de titane, quelqu'un vous dira, vous le voulez pour quand? Je veux dire, le problème de matière première ne se pose plus, et inversement le problème des déchets. Donnez-moi vos déchets radioactifs, j'en fais de l'hélium. Ça n'est pas de la science-fiction. Ça n'est pas de la science-fiction parce que c'est 3,7 milliards de degrés. Avant 2006, c'était de la science-fiction.
Qu'est-ce que vous regrettez que la science ne puisse pas faire pour la Terre, pour le monde, pour la planète?
Ben, d'abord, la science, si elle avait une conscience, ce serait pas mal. Pour le moment, elle n'en a pas. Elle n'en a aucune. Vous savez, je me rappelle un jour, dans la revue du CNRS, Charpentier, il y a déjà au moins 15 ans, avait fait un article, ça s'appelait « L'armée disait, scientifique, il faut qu'on se parle ». Et Charpentier disait « Nous n'avons pas assez de contraintes de l'armée pour satisfaire les demandes des chercheurs ». Mais la conscience morale d'un chercheur, ça s'achète avec une poignée de cacahuètes. Pas la mienne. Comprendre ou disparaître. Voilà, c'est ce que je pense.
À la recherche d'un autre monde avec Jean-Pierre Petit, un portrait signé Michel Diaz et François Porcheron.